Prions. Père, nous voulons te rendre gloire et te bénir pour ta parole, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, qui est une vérité, qui est une réalité, une parole qui change de vie depuis des millénaires. C'était non seulement des hommes comme du temps d'Abraham, comme du temps de David, c'est des hommes aussi comme du temps de Matthieu, l'évangéliste, comme du temps de Paul, en notre temps aussi. Tu touches encore avec ta parole. Ce matin, je demande simplement que cette parole qui est ouverte nous nourrisse spirituellement, tous, et nous aide à aller de l'avant avec toi. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons ouvrir notre Bible, nous allons lire encore l'épître de Jacques. Et je vais lire, donc on va lire encore ce qu'on avait commencé la fois passée, le chapitre 1, donc du verset 19 au verset 27. On va relire le tout, mais on va s'arrêter sur ce qui nous concerne aujourd'hui. Jacques, chapitre 1, verset 19 à 27. « Sachez-le, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans son miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Alors, la fois passée, nous avons parlé du rapport qu'il y a entre la maturité chrétienne et la parole de Dieu. Et j'avais dit que la parole de Dieu était un outil, un moyen pour pouvoir accéder à la maturité chrétienne. Et j'avais dit brièvement en disant que la maturité chrétienne, c'est cette étape nécessaire qui fait du chrétien un homme de Dieu accompli et propre à toute bonne œuvre, qui fait de la chrétienne une femme de Dieu accomplie et propre à toute bonne œuvre. Et pour reprendre l'expression, que le concept que l'apôtre Jean avait dit dans sa première épître, il parlait de la maturité comme étant l'âge des pères. Je vous ai écrit enfant, je vous ai écrit jeune gens, je vous ai écrit père. C'est l'âge où nous sommes en mesure d'apporter le maximum au Seigneur. Nous sommes donc, en tant que chrétiens, en marche, de progrès en progrès. Nous progressons dans notre marche chrétienne. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être un chrétien qui vit juste. Déjà, des progrès, il faut en faire dans la connaissance de la Bible. S'habituer tellement à la parole de Dieu qu'on peut y trouver la nourriture qu'il nous faut pour tous les jours, qu'on peut y trouver les réponses à toutes nos questions. C'est un progrès à faire dans notre façon de lire la Bible, de la méditer, de la vivre au quotidien. C'est un progrès à faire dans notre vie de prière, notre relation intime avec Dieu, toujours et toujours et toujours apprendre à cheminer avec Dieu et à devenir vraiment familier avec Dieu. Des progrès aussi à faire dans notre façon de servir Dieu, à la fois dans l'Église, mais aussi dans notre environnement, partout où nous sommes. Nous avions dit que dans ce texte de Jean, de Jacques, Nous avons dit qu'il y avait trois attitudes, trois manières, trois choses qui peuvent nous aider dans notre façon de regarder la parole de Dieu, qui peuvent nous aider à accéder à la maturité. Nous avions dit, première chose, au verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été implantée, qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevoir la parole de Dieu. Accueillir la parole de Dieu. Ça, c'est la première attitude qui nous permet de pouvoir aller de l'avant, grandir et atteindre la maturité. Accueillir la parole de Dieu. Ici, on parle de accueillir avec douceur. La douceur sous-entend l'idée de non-violence, de non-résistance, donc de docilité. Recevoir avec docilité la parole de Dieu. Non pas dans un esprit de contestation par rapport à ce qui est écrit, mais accueillir ce que le Seigneur nous dit pour essayer de le placer dans notre cœur et dans notre vie et dire, je vais vivre ça, Seigneur. Deuxième chose. Verset 22. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Accueillir, recevoir la parole, d'un côté. Deuxième chose, c'était mettre en pratique la parole de Dieu. Nous avons aussi insisté sur l'importance de mettre en pratique la parole de Dieu. Ce matin, nous allons maintenant aborder la troisième chose qui peut nous permettre de pouvoir aller de l'avant et croître dans la maturité chrétienne. C'est la troisième chose, c'est partager la parole de Dieu. Donc, recevoir la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu et partager la parole de Dieu. Ce matin, nous allons voir ces deux versets, le verset 26 et 27, qui vont être nos versets que nous allons vraiment utiliser pour pouvoir avancer avec ça. Alors, nous gardons en vue, nous gardons en tête le fil conducteur de cet ensemble de textes qui est l'importance de la parole de Dieu dans la maturité chrétienne. Mais cependant, si vous regardez au verset 26, on parle de si quelqu'un est religieux. Et puis le verset 27, on parle de la religion. Alors vous dites, Gaston, il y a quelque chose là, un stut là, un problème là. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le rapport entre finalement la parole de Dieu et la religion d'un côté? Quel est le rapport entre ce que tu dis avec la parole de Dieu qui conduit à la maturité et puis cette affaire de la religion ou d'être religieux qui est ici? J'aimerais dire une chose. La religion, le mot religion dans la Bible est un mot très rare. Peut-être utilisé maximum 5 fois. C'est un mot qui, dans tous les cas, ne désigne pas un culte à une divinité. Ne désigne pas une adoration vers une divinité. Chaque fois que le mot religion a été utilisé dans la Bible, il s'agit toujours plutôt évoque plutôt l'idée de la manière de se comporter par rapport en réponse à la parole de Dieu. C'est les actes que nous posons en réponse à la façon dont on a compris ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Donc ce sont les œuvres, en quelque sorte, de la parole de Dieu. La religion est donc la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est le culte qui est vécu en rapport avec la parole de Dieu. C'est l'ensemble des choses que nous faisons au nom de la parole de Dieu. En quelque sorte, la religion est un peu comme un thermomètre qui mesure notre obéissance à la parole de Dieu. C'est ça le sens de la religion ici. Un thermomètre qui vient voir si effectivement nous respectons, nous obéissons, nous marchons, nous nous conformons à la parole de Dieu. Je n'ai pas encore donné la ici en quoi cette religion consiste. J'ai juste un peu simplement éclairé le cadre, la façon de voir ce mot. À travers notre religion, donc, nous mettons en pratique la parole de Dieu et nous aussi, nous montrons que notre vie est ancrée dans cette parole. Que finalement, tout ce que nous faisons dans notre vie, eh bien, c'est le reflet de ce que nous avons compris, intégré comme parole de Dieu dans nos vies. C'est cela le sens. Alors, au verset 26, avant de pouvoir dire en quoi consiste cette religion, il y a déjà un avertissement. L'avertissement, ou une espèce de condition préalable, c'est que on ne peut pas être religieux sans avoir sa langue qui est maîtrisée. Un des domaines où notre attitude religieuse doit faire la différence, c'est dans notre façon d'être sage et de bien choisir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. C'est dans le fait de tenir notre langue en bride, comme il le dit ici. Vous savez, le bride, ça fait penser aux morts qu'on met sur le cheval pour pouvoir le diriger. Notre langue doit pouvoir être maîtrisée à ce point-là, que nous y mettons une espèce de bride et que nous l'orientons. Ce n'est pas la langue qui doit nous conduire, mais c'est nous qui devons conduire notre langue. Et vous savez que dans notre monde aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe souvent. Les gens disent d'abord, et puis après ils disent « zut, mais qu'est-ce que j'ai dit ?» Les gens pensent tout haut d'abord, et puis « zut, mais pourquoi j'ai pensé comme ça ?» Ma façon de m'exprimer est le reflet de ce qui se passe dans mon cœur. C'est ce que la Bible dit. La bouche parle par l'abondance du cœur. C'est ce qui est plein dans mon cœur que je vais ressortir. C'est ce qui remplit mes pensées que je vais pouvoir dire. Si j'ai une angoisse, si j'ai un problème, vous savez, la psychologie, la psychiatrie, la psychothérapie, tout ce qui se sert de la parole comme méthode pour soigner les gens, eh bien, c'est ce qu'ils font. Ils vous écoutent. Pourquoi? Parce que dans ce que vous dites, il y a ce qui se passe dedans de vous. Dans ce que nous disons, c'est là qu'il y a un problème. Alors le psychologue va écouter. Il va écouter les souffrances. Il va écouter les anxiétés, les peines, à partir de ce que nous disons. Parce que le cœur, il est rempli des choses que la bouche exprime. Plus il y a des méchancetés, plus je m'exprimerai d'une manière méchante. C'est ce que Jésus dit. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de l'homme. Et il désigne toutes ces choses qui sont dans l'homme. Toutes sortes de méchancetés, toutes sortes de pensées mauvaises. Savoir maîtriser sa langue, c'est témoigner qu'on est religieux. C'est-à-dire qu'on vit la parole de Dieu au plus profond de soi. Que c'est la parole de Dieu qui nous habite d'une manière profonde. Pas besoin que quelqu'un vienne dire « Oh, moi je suis un chrétien. Je vis ma vie en tant que chrétien. » Oui, d'accord, ok. On va jouer un petit jeu avec toi. Moi, c'est ce que je fais avec les jeunes. Hein. Il me dit qu'il est chrétien. Je dis, ok, très bien, on va jouer. On met un jeu, je ne sais pas moi, le kicker ou le tennis ou le football. Vous savez, vous allez découvrir les gens. Il rate son coup, il râle un petit coup et il lâche des petites choses, quoi. Il dit, ah, oui, ok. Il suffit de mettre les gens dans les conditions. Vous savez, nous sommes très bien comme ça, mais venez vivre avec moi un jour, je serai très bien, je serai bien hypocrite. Mais le deuxième jour et le troisième jour, vous me découvrirez. Ah, il s'énerve. Ah, il parle comme ça. Le Seigneur veut que la parole nous pénètre tellement que les valeurs qui sont dans la parole de Dieu, à travers notre façon d'être, s'exprime. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Ce matin, ce texte n'est pas là pour nous juger, mais ce texte est là pour nous attirer notre attention sur l'importance de veiller sur notre langage, notre façon de parler. Si nous voulons dire que nous sommes des témoins du Christ, si nous voulons dire que nous sommes des croyants, des enfants de Dieu, alors nous veillons sur notre façon de parler. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui dit, il ne faut pas qu'on entende des grossièretés, qu'on entende des paroles déplacées, des mauvaises plaisanteries, etc. C'est l'apôtre Paul qui recommande tout ça. Pourquoi ? Parce que dans notre façon de parler, il y a la signature de Dieu, ou pas. Un homme qui veut être religieux, qui veut témoigner de sa façon de vivre sa foi, doit veiller à cette dimension-là. Maintenant, peut-être pour simplement éclairer le texte, rester aussi dans le contexte du texte. Il y a certains commentateurs qui parlent de ce texte, en parlant de religieux qui sont ici, ils parlent plus peut-être des fanatiques, des gens qui se battent pour des détails. Vous savez, vous connaissez ça, hein? La grâce de Dieu. Il est écrit, et c'est la bagarre pour les mots. C'est à ça que certains commentateurs font allusion, à des fanatiques qui se préoccupent de détails scrupuleux, ou à des légalistes, à des gens qui se fondent sur une conception des choses et qui se bloquent là-dessus. Et c'est vrai que il y a risque de se tromper, évidemment, quand ce n'est pas branché sur la parole de Dieu. On peut alors commencer à croire que tout ce que je pense est juste. Et si tout ce que je pense est juste, et si j'érige tout ce que je pense en loi, je vais m'égarer, je vais me tromper, je vais aller dans la mauvaise direction. Bien sûr, cela est loin de nous, hein. On n'est pas des fanatiques, hein. Enfin, j'en ai pas encore trouvé parmi vous. Peut-être qu'il y en a, mais j'en ai pas encore trouvé. Peut-être qu'il faudrait que j'aille dormir chez vous une semaine pour voir. Mais je doute, parce que ça aurait déjà chauffé dans l'église. Il n'y a pas de fanatiques parmi nous. Il n'y a pas de légaliste au sens vraiment destructeur du mot le plus profond. Il n'y en a pas. Donc, on pourrait dire que ce texte ne nous concerne pas. Non, ça nous concerne. Ce texte nous concerne parce que il attire l'attention sur notre façon de parler. Malheureusement, force est de constater que c'est dans les communautés chrétiennes où on a le plus de connaissances sur l'importance de tenir bien sa langue, c'est là malheureusement qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas tenir leur langue. Si c'était le cas, si nous savions tenir notre langue, il n'y aurait pas de médisance parmi nous, il n'y aurait pas de calomnie, il n'y aurait pas des propos déplacés, il n'y aurait pas des conflits entre les gens. Il y aurait un langage qui permettrait une compréhension. C'est pour ça que c'est important de pouvoir travailler cela. C'est important de pouvoir vraiment se mettre à jour avec cette question-là. Se remettre en question sur comment je parle, comment je m'exprime. C'est ce que je dis. A-t-il une portée positive sur l'autre? Est-ce que ce que je dis, je le dis pour faire du bien à l'autre ou bien pour le blesser, pour le choquer, pour le mettre en douleur? En tant que parent, c'est un boulot difficile parce que parfois les enfants, ils font des choses. Hein, Mathieu? Mais toi, t'es bien un grand garçon, toi. Je vais m'adresser à un plus jeune, hein, Anne Déborah. Parfois, les enfants sont quand même casse-pieds, hein. Tu leur dis un truc une fois, tu pars. Et qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Il fait pas. Tu leur dis une deuxième fois, et tu crois qu'il va le faire? Il fait pas. Alors, ils nous mettent à l'épreuve parfois. Il faut choisir les mots qu'il faut dire. Il faut éviter les. Tu es toujours comme ça. Tu n'avanceras plus. Et t'es nul, t'es négatif. Il faut trouver des mots pour à la fois manifester qu'on n'est pas d'accord, parfois énerver, mais tout en gardant le témoignage chrétien. À vous de jouer. Ce sont des recettes. Seul Dieu peut nous aider à avoir un langage adéquat. Demandons cela dans la prière. Seigneur, aide-moi à avoir le langage qu'il faut. Partout et toujours. Peu importe où je suis, mais avoir le langage qu'il faut pour parler de manière à ce que j'obtienne le résultat de ce que je cherche, mais que je ne casse pas l'autre, que je ne lui fasse pas du mal impunément. Et si je lui ai fait du mal, parce que ça peut arriver, hein, Comment faire pour restaurer une parole juste, une parole correcte, une parole restauratrice qui permet à la personne de se dire, ok, il m'a dit ça ou elle m'a dit ça, mais bon, je peux faire passer ça. Allez, on avance. Alors maintenant, la question c'est, en quoi consiste cette religion? Pourquoi Jacques va-t-il parler de religion ici? Qu'est-ce qui se passe avec notre ami? Jacques est confronté à une attitude qui est une attitude fortement légaliste. Une attitude qui est une attitude qui s'écarte d'une pensée ancrée dans la parole de Dieu. Son but, c'est de ramener cela à ça. Et de ramener les gens à Dieu en disant, si nous sommes ancrés dans le Seigneur, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas faire. Si vous lisez attentivement l'épître de Jacques, vous remarquerez que il y a pas mal de problèmes là-bas, pas mal de tensions, pas mal de difficultés. Ils sont dans une communauté, il y a pas mal de conflits entre eux. Et lui veut désamorcer ces conflits et remettre les choses autour du Seigneur et de sa parole. La religion, en quoi consiste la religion pure et sans tache devant notre Dieu, devant Dieu notre Père? Le verset 27, c'est tout simple. Consiste à deux choses. Visiter les orphelins dans leurs afflictions et les veuves et se préserver des souillures du monde. La religion est d'abord une manière de servir les autres. La parole que j'apprends, la parole de Dieu que j'ai reçue dans mon cœur, que j'ai accueillie, que j'ai laissé me transformer à l'intérieur de moi. La parole de Dieu que j'apprends à mettre en pratique dans ma vie quotidienne, dans ma vie de tous les jours. C'est une parole que je dois aussi me forger dans le but de servir les autres. Elle n'est pas là simplement pour que je dise, je fais attention à tout moi. Je veille à ce que ma vie soit correcte. Je suis très, très, très bien. Aucun souci, moi je suis impeccable. On ne s'arrête pas là. Mais elle est là pour que j'aille vers les autres. Que je puisse servir les autres. Que je puisse servir les autres. Et Dieu met l'accent particulièrement, ce n'est pas seulement dans ce texte, mais même déjà dans l'Ancien Testament, dans tout le judaïsme, la pensée profonde de Dieu, c'est toujours d'abord à l'égard des plus démunis, des plus faibles, des exclus. Regardez dans Lévitique, Dieu trace l'identité du peuple juif, mais il dit, pour vos sabbats, si l'étranger est avec vous, si l'esclave est là, lui aussi participe à ça. Il dit, vous faites du bien, mais faites du bien aussi aux étrangers parmi vous, aux gens malheureux, aux démunis. Vous savez, nous avons une loi en Belgique qui est que le cultivateur, l'agriculteur, enfin, je sais pas comment on appelle ça, l'agriculteur, celui qui a les tracteurs, là, qui fait les... Hein, on appelle ça comment? L'agriculteur, je peux dire agriculteur? Ou le fermier? Je sais pas, bon, enfin, bon. Donc, l'agriculteur, bon. Donc, l'agriculteur, quand il passe pour faire sa récolte, une loi en Belgique autorise que le reste de ce qu'il y a dans la récolte, qui reste, les gens ont le droit d'aller prendre, ont le droit d'aller glaner. C'est le droit de glaner. Vous savez que c'est un principe biblique, hein? Ça vient de la Bible, hein? C'est Dieu qui a demandé ça. Pourquoi a-t-il demandé ça dans le temps? C'est parce qu'il y avait des pauvres, des gens qui n'avaient accès à rien, et avec ça, ils pouvaient avoir de la nourriture. Vous connaissez cette belle histoire avec Ruth, qui a ainsi réussi à draguer Boaz. Oh, pardon, qu'est-ce que je raconte? Mais c'est une belle histoire quand même. Dieu veut que la parole que nous avons appris, la parole que nous avons à maîtriser, la parole que nous pratiquons, elle nous serve aussi en partage aux gens. Elle nous serve au service des autres. Qu'elle soit là pour que nous puissions servir les autres. Et que nous servions d'abord les plus démunis. Que nous soyons sensibles à la souffrance des personnes qui n'ont pas. qui sont démunis, qui sont dans les besoins. Dans l'Ancien Testament, c'était le cas déjà. Je viens de vous le dire. Dans le Nouveau Testament, on voit même Jésus aussi être sensible à cela. La notion de l'aumône est une notion qui est en rapport avec ça. Et vous savez quoi? Regardez comment Jésus regarde cette vieille dame qui vient et qui donne dans le tronc du temple les deux sous qu'elle avait. Jésus l'observe. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, elle a donné tout son cœur. Il ne dit pas, elle a donné l'argent, mais tout son cœur. Vous savez pourquoi? Parce que ma façon de servir Dieu, ma façon de donner à Dieu, détermine la qualité de ma relation avec Dieu. Ce que je donne à Dieu est le reflet de comment j'aime Dieu. Si j'aime beaucoup Dieu, je donnerai beaucoup à Dieu. Si je l'aime un peu, je donnerai un peu. La tâche que nous avons, qui est de pourvoir aux besoins des plus faibles, n'a du sens que comme le reflet de la qualité de notre relation avec Dieu. La parole est à partager d'une manière concrète, à travers le service que nous faisons aux autres et aux plus démunis. C'est le rôle du chrétien né de nouveau. C'est le rôle de l'Église d'être aussi sensible à la misère et au dénouement des pauvres. C'est notre façon de répondre au désir de Dieu et de se montrer reconnaissant et obéissant à l'égard de Dieu. D'une part, il y a une question de pouvoir aux besoins, aider ceux qui sont dans les afflictions. Mais de l'autre côté, il y a se préserver des souillures du monde. La religion, cela consiste aussi. Donc c'est d'une part une manière de servir les autres devant Dieu. Devant Dieu. Moi j'aime bien cette idée de devant Dieu. C'est vraiment, je le fais, Dieu m'est témoin. Dieu voit ce que je fais. Je le fais comme si Dieu était devant mes yeux et qu'il voyait ce que je fais. Ce que je fais. Une première chose, c'est d'être au service des autres. Une deuxième chose, c'est dans ma façon de vivre. Se préserver de toutes les souillures du monde, cela veut dire... La religion est une manière de vivre ma relation avec Dieu. Une manière active où je fais en sorte que tout ce qui peut briser, altérer, détruire, mettre en danger ma relation avec Dieu soit écarté. Je veille à ça. Je veille à ça. Pas seulement à mes paroles, mais dans les actes que je pose. Je veille à ce que tout ce qui peut altérer ma relation avec Dieu soit écarté de ma vie pour que je marche à tout instant avec Dieu en disant « Je suis avec le Seigneur ». Il n'y a pas des choses que ma conscience me pointe du doigt en disant « Ouh !» Se préserver des souillures du monde. Intéressant. Intéressant. Vous savez que le monde... D'après la Bible, c'est une société sans Dieu. C'est la société sous le règne du diable. C'est ça le monde. Et c'est paradoxal, parce que Jésus dit, car Dieu a tant aimé, enfin, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. C'est drôle quand même. Hein? Dieu, il aime des gens qui ne l'aiment pas. Des gens qui sont sous le pouvoir du diable. Mais Dieu les aime. Dieu... Le monde. Et le monde est sous le contrôle du diable. Et la Bible dit que nous n'avons pas à aimer le monde. Tu peux montrer ce verset, Jean chapitre 1, Jean 3, 10, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Oui, la texte nous dit clairement de ne pas aimer le monde. Peut-être que j'aurais dû te demander le verset 16. Tout ce qui est dans le monde. Il y a des choses dans le monde. En général, la philosophie profonde du monde est à proscrire de notre façon de vivre. Le système des valeurs du monde est à rejeter pour nous. Parce que ça ne glorifie pas Dieu. Regardez le verset 16. Car tout ce qui est dans le monde. Qu'est-ce qui est dans le monde? La convoitise de la chair. Le fait de satisfaire nos besoins. Manger, boire, je sais pas moi, vivre, enfin, comme nous vivons, quoi, hein, en se lâchant complètement, quoi. Convoitise des yeux, la possession, l'avoir, les biens matériels, le matérialisme, l'orgueil de la vie, le pouvoir, la domination sur les autres. Toutes ces choses ne viennent point du Père, mais du monde. Et c'est malheureusement notre monde. Hein. Nous envoyons nos enfants à l'école, ils vont apprendre quoi? Ils vont apprendre à satisfaire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est ce qu'ils vont apprendre à l'école. Les gens que nous côtoyons, c'est ce qu'ils vont nous apprendre. Mais la Bible dit, n'aimez pas le monde. Équation difficile. Comment faire? Comment faire? Je pense qu'il faut d'abord commencer par se considérer que nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes en route vers la patrie céleste. On ne rejette pas tout dans le monde. On rejette principalement la pensée dominante du monde. C'est contre la pensée dominante du monde qu'on doit aller dans le sens inverse. Mais on peut manger avec les gens du monde. On peut avoir des amis du monde. Je suis pas occupé à dire, n'ayez pas d'amis dans le monde. Hein. D'ailleurs, parfois, les amis chrétiens sont pires que les amis du monde. Oh, pardon, excusez-moi, pardonnez-moi. Il ne s'agit pas ici de rejeter les amis du monde. Jésus avait des amis du monde. D'ailleurs, il énervait beaucoup la nomenclatura chrétienne de l'époque, les religieux de l'époque. Il les énervait parce que lui, il fréquentait tout le temps ces gens-là, les prostituées, les machins comme ça. Et comment? Il ne comprenait pas. Et c'était ses amis. Mais comprenez-moi bien, nous pouvons avoir des amis dans le monde. Nous pouvons vivre certaines choses de ce monde avec, bien sûr, prudence, parce que certaines choses peuvent être acceptables. Mais ce qui doit dominer nos pensées et notre cœur, que nous ayons des amis du monde ou que nous soyons face à des choses du monde qui nous contraignent, c'est qu'est-ce que je fais pour donner la gloire à Dieu dans ça. J'ai des amis du monde, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour que Dieu soit glorifié dans ces relations que j'ai avec les gens du monde? C'est là que vous découvrirez, par exemple, l'urgence de prier pour eux, de parler de Jésus à eux, pour les amener à Christ. C'est là que vous allez voir que vous allez demander à Dieu toute l'intelligence pour savoir comment, tout en gérant cette relation, que des évidences s'élèvent dans la tête et dans le cœur de ces personnes que Christ est mort aussi pour eux. Christ les veut aussi comme leur sauveur. C'est à nous, c'est notre tâche. Dans tout ce que je fais dans le monde, je dois pouvoir faire cela en me disant, je vais donner la gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que je suis un pèlerin. Je suis en route vers ma patrie céleste. Vous savez, mes amis, dans l'histoire, nous avons quelques exemples malheureux. L'histoire de la Bible. Souvenez-vous d'un homme qui s'appelait Lot. Vous connaissez Lot? Qui connaît Lot? Enfin, pas dans votre fréquentation, mais enfin, dans la lecture de la Bible. Lot était le neveu d'Abraham. Ok? Lot a considéré, il y a eu des conflits entre les bergers de Lot et de ceux d'Abraham. Et Lot, Abraham a dit, ok, nous sommes des frères, il ne faut pas qu'on entre en conflit. Vraiment pas du tout, ça sert à rien. Il ne faut pas qu'on soit en conflit. Choisis ta route et moi, je choisirai celle que tu vas laisser. Et Lot a regardé les plaines de Sodome. Il a vu que les plaines étaient belles. Il y avait de l'herbe verte pour le bétail. Yep. Lot s'est retrouvé dans les plaines à Sodome. C'est tout près quand même, hein. Il était tout près de Sodome. Savait-il ce que c'était qui était à Sodome? Je ne sais pas. Toujours est-il que plus tard, plus loin, on va apprendre que Lot, non seulement il était dans les plaines de Sodome, non seulement il a été à la porte de Sodome, mais il a commencé à vivre avec les gens de Sodome. Et vous connaissez peut-être la fin de Lot, comment il est sorti en quatrième vitesse. Il était hors jeu. Si Abraham n'avait pas intercédé pour lui, Lot était mort. Il était tellement crevé de supporter ces gens-là, tellement fatigué de vivre avec ces gens, qu'il n'avait même plus la force de se battre spirituellement. Il était mort. Ça, c'est le monde. Si nous voulons fréquenter le monde, sachez-le, nous allons être mis KO. Nous deviendrons incapables de prier, incapables de lire notre Bible et encore moins de vivre les valeurs chrétiennes. Lot n'avait fait que se rapprocher un peu. Souvenons-nous de ça, pour que chaque fois que nous sommes tentés par le monde, pour nous y rapprocher même un tout petit peu, vous savez, un tout petit peu seulement, juste un petit pas. Souvenons-nous que le petit pas peut nous faire glisser à l'intérieur du monde et nous faire perdre pour toujours. Que le Seigneur nous accompagne dans notre maturité. Dieu a besoin des hommes et des femmes mûrs. Des gens qui savent prendre sur eux, qui savent supporter, qui savent servir dans la souffrance, dans les larmes, dans les pleurs. Des gens qui savent continuer la route. Des gens qui savent prendre en charge des choses, même quand personne ne fait plus rien. Des gens qui savent faire grandir d'autres. Qui savent donner du goût aux autres chrétiens pour qu'eux aussi aient envie de... Oh là là, je devrais m'arrêter, monsieur. Je devrais vraiment m'arrêter, ça. Je commence à exagérer, je vais faire sauter. Bientôt Jean-Paul va m'en vouloir parce qu'il va m'en... Le micro va s'en aller. Bien, Dieu a besoin des hommes et des femmes et des hommes de Dieu. C'est pour ça que ce texte d'Éphésiens, de 2 Timothée 3:16 est très intéressant. Toute écriture est inspirée, etc., utile pour enseigner, corriger, etc., afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est un texte important parce qu'on parle de l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu, c'est pas l'homme dans le sens de la personne, mais c'est l'homme dans le sens de l'aboutissement, le résultat de cette enfance qui a grandi et qui a mûri. Parce que l'homme, c'est la maturité de l'enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Non? L'homme, c'est la maturité de l'enfant. Et l'homme de Dieu, c'est cette idée-là. Quelqu'un qui a atteint le degré de maturité et qui peut servir valablement. Que Dieu nous bénisse dans notre marche pour la maturité. Vraiment, c'est un challenge, un défi d'autant plus important que vous voyez vous-même autour de nous que le christianisme devient de plus en plus quelque chose qui fait rire les gens. Être chrétien, tu es chrétien, toi, tu es un peu d'un autre siècle, tu es anachronique. Mais d'autant plus que c'est comme ça, nous avons besoin d'avoir un message percutant. Des hommes et des femmes capables de se lever et d'apporter un message qui touche, qui fait réfléchir. Et un mode de vie qui témoigne qu'ils font la différence. Qui sont différents, qui sont profondément différents. Une connaissance, une pratique de la parole de Dieu qui soit tellement profonde qu'on ne va pas venir vous mentir avec Matthieu chapitre 34 et vous dites oui. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Et que cette parole, Seigneur notre Dieu, tu nous aides à la serrer dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mais que cette parole aussi, Seigneur, tu nous aides à la vivre, à la recevoir, à l'accueillir, à la laisser s'implanter en nous et transformer notre cœur, nos pensées, notre motivation. Seigneur, accorde que cette parole soit une parole que nous mettons en pratique. Nous ne nous contentons pas juste de l'écouter, mais on la met en pratique. On la vit pour notre vie. Mais fais aussi en sorte que cette parole nous y trouvons aussi les outils, les éléments pour servir les autres, servir d'abord les pauvres, ceux qui sont démunis, ceux qui sont dans la détresse, mais servir aussi d'une manière générale tout le monde. Il est vrai que le contexte de l'Ancien Testament, du temps de Jacques, est un contexte où la nécessité d'agir pour les pauvres était encore beaucoup plus grande qu'aujourd'hui peut-être. Mais aide-nous, Seigneur, à nous servir de ta parole pour te servir. Seigneur, aide-nous aussi que ta parole devienne cette façon de nous aider à vivre d'une manière sainte, d'une manière séparée de ce monde. Donne-nous aussi la sagesse pour gérer nos rapports avec ce monde. Merci Seigneur pour ta parole et je te demande de continuer à ce qu'elle travaille dans les cœurs des uns et des autres encore. Merci Seigneur. Amen.